Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Salut Charline.
Alors notre invité du jour, c'est Thomas Lilti.
Ah bah c'est le réalisateur d'Hippocrate, j'adore.
Ouais, il est aussi médecin.
Ah bah médecin réalisateur, d'accord. Et pourquoi pas un avocat fermier
pour défendre les voleurs de poules, c'est pratique. Ouais, avocat.
Ouais, c'est un parcours atypique, hein. Voilà, moi si j'avais pu, j'aurais bien aimé exercer plusieurs métiers.
Moi aussi, moi j'aurais pu faire médecine, moi.
Ah bon?
Bah je commence à avoir des bonnes notions en gynécologie.
Ah non, attends, moi j'ai un deuxième métier par contre.
Ah bon?
Ah bah je suis écrivain.
Oui, l'Albert Londres du pot.
Ah mais c'est vrai que j'aime bien porter la plume dans la plaie. Moi j'aurais fait grand reporter, sans problème.
Oui, sur le marché de Petite Queville. Oui.
Moi je pense qu'avec un peu de travail, j'aurais pu devenir chanteuse.
En tout cas, à Petit Quevilly, il y a aussi des enquêtes à faire et des sujets qui dérangent.
Oui, les championnats du monde de Barbapapa, ça dénonce, mon pote.
Ouais, sinon, ministre de l'Environnement.
Ouais, toi, Alex, tu fais le malin, mais qu'est-ce que t'aurais fait comme deuxième métier?
Ouais, j'ai plein de petits talents, je peux te dire.
C'est sûr que si les échecs sentimentaux étaient rémunérés.
J'aurais peut-être pu aussi être maraîchère.
Sans vanter, je gère bien les gens, j'aurais pu faire patron.
Ouais, tellement de droite, là, regarder travailler les autres.
Oh, ça s'appelle le chômage, et c'est de gauche.
Tu m'énerves. Et toi, Charline, t'aurais fait quoi?
Je crois que j'aurais aimé être professeur, voilà.
D'accord.
Pour dire silence dans la classe. Pour que vous m'écoutiez quand je parle, voilà.
Je crois qu'on va devoir s'improviser psychologue.
Allongez-vous, madame.
Allez.
Bonjour la France Inter, nous sommes le mercredi 5 juin 2019 et voilà déjà près de 10 jours que nous sommes sans nouvelles de Jean-Luc Mélenchon. 10 jours que la République, c'est lui, a disparu. Si vous le retrouvez, n'agissez pas seul. En attendant, voici les 3 infos qui auraient pu être une cinquantaine à 47 infos près. 80 services d'urgence sont en grève dans le pays, tandis qu'à l'hôpital Lariboisière à Paris, les urgentistes se sont mis en arrêt maladie car ils sont assignés à travailler avec un brassard en cas de contestation. L'arrêt maladie est donc le dernier levier du désespoir. Et ça leur fait un point commun avec les patients.
Alors, c'est qui le tour?
À moi. Ça fait 4 heures que je suis là.
Ah, bah vous venez d'arriver. C'est de l'humour médical.
Avec la fin de Game of Thrones, « Déprime is coming », titre le magazine Society, qui explique le deuil que constitue la fin d'une série quand elle a duré plusieurs saisons. Au lendemain de l'épilogue, le pain n'a plus le même goût.
Ça va plus du tout. J'ai plus envie de boire ni de manger. J'ai plus envie de me peigner. Oh, et puis merde, j'ai même plus envie de me laver.
Ah, Michel Houellebecq qui a regardé Got. L'argent de poche donné aux enfants, c'est le premier apprentissage de l'épargne et de la gestion de ces petits sous. Mais comment on apprend à donner aux enfants? Est-ce que c'est par là qu'il faudrait commencer?
Être scout, c'est être généreux. La générosité, c'est savoir donner. Alors j'espère que vous serez tous d'accord pour mettre en commun votre argent de poche.
Communiste.
Lui, il est dans la générosité, oui. Il est dans le partage,
oui,
le partage du rire, voilà. Des bières et des MST. De l'amitié, j'avais écrit de l'amitié. Allez,
Donc, si vous prenez mon rôle, je ne sers plus à grand chose.
Bien renseigné, en tout cas.
Vous présentez une belle équipe à 17h20. Dans la famille Hippo, il y a bien sûr Crate, Crit, Potamus, mais il y a surtout Hippo, Lee Girardeau, bonjour.
Ouais, et ben ça va être hippochondriac.
Très bien. Oui, c'est travaillé, hein. Passe décisif. Hop, c'est but.
Première radio de France. Hein,
17h30, celui qui hier a investigué dans le monde cruel de l'œuf mayonnaise, oui. Aujourd'hui choisi un sujet plus léger et fantastique puisqu'il s'agit du plastique.
Tout à fait, c'est la journée sans plastique à France Inter, donc je me suis incrusté à une conférence de presse du représentant du lobby du plastique.
Je vous vois arriver.
Et il m'a vu arriver.
Il a pas été déçu, j'imagine. À 17h40, celui qui explique beaucoup mieux l'actualité qu'il ne la comprend lui-même, c'est vous Thomas VDB.
Absolument, bonjour Alex, bonjour à tous. Alors vous avez remarqué que ce week-end, il a fait très chaud.
Très chaud.
Hein, très très chaud. Je vais donc parler de canicule et de mauvaise humeur.
Très bien.
Et voici celui avec qui on va jouer au docteur jusqu'à 18h. Je vous laisse nous dire qui vous êtes. Vous êtes...
Thomas Lilti.
Oui, oh là là, ça c'est bien.
France Inter. Charline Vanhoenacker. Alex Vizorek.
Par Jupiter.
Bienvenue doc. Thomas Lilti avec nous, médecin et réalisateur. Bien sûr, vous avez notamment réalisé Hippocrate en 2014, médecin de campagne en 2016 ou première année plus récemment en 2018 et bien sûr la série Hippocrate dont vous tournerez
la saison 2 fin décembre.
Bienvenue Thomas Lilti, on vous reçoit pour quelque chose de très particulier car demain vous retournez dans votre lycée. le lycée Pierre Corneille à la Celle-Saint-Cloud, car vous faites partie des nombreux artistes qui participent à l'opération Un artiste à l'école qui va s'achever donc avec vous demain. Vous allez vous adresser à peu près 150 lycéens, j'ai vu, c'est énorme, pour raconter votre parcours, votre métier. On commence par quoi dans ces cas-là?
Mais j'en ai aucune idée, c'est surtout ça. Moi, je retourne au lycée. Ça...
Demandez déjà, à Jean-Luc Lahaye, parce qu'il fait régulièrement une journée.
Ouais, je vais me méfier, ouais. Il faut que je me tienne un peu à l'écart. En tout cas, non, ce qui est passionnant, c'est de retourner dans le lycée où on a été soi-même lycéen. Et j'espère peut-être pouvoir transmettre quelque chose, je ne sais pas. Mais j'y vais avec, j'espère, modestement, parce que ça ne va pas être... J'étais pas obligatoirement, contrairement à l'idée reçue, puisque je suis devenu médecin, j'étais pas un très très bon lycéen. Ah, je suis devenu bon après, moi.
Est-ce que vous y allez aussi un peu dans l'espoir de recroiser vos anciens profs qui vous avaient humilié pour leur dire, alors qui c'est qui fait du cinéma?
Il y a ce fantasme-là, mais je crois qu'il va être hyper déçu parce que c'était il y a quand même 25 ans, donc il risque d'être très vieux. Quoi.
Si vous aviez eu de jeunes profs, c'est possible que vous puissiez les recroiser. Donc oui, vous savez pas par quoi vous allez commencer, vous allez vous laisser porter par le moment. Déjà, il y aura un peu l'émotion.
J'espère qu'ils ont préparé un peu quand même, les lycéens, ils ont bossé un petit peu, ils ont vu mes films. Non, j'espère leur transmettre, leur raconter mon parcours et puis qu'ils aient le sentiment. Je me dis, moi, quand j'avais leur âge, j'aurais peut-être aimé que quelqu'un qui a été dans mon lycée, qui a réussi une dimension artistique, de pouvoir un peu me transmettre quelque chose. Donc, si je peux faire ça, ce serait pas mal.
C'est là où on se cherche. Donc, d'avoir quelqu'un qui vient vous expliquer, j'ai étudié la médecine pour faire du cinéma. Est-ce que ça va les aider vraiment beaucoup?
Ça va peut-être les aider déjà à pas faire médecine. Quoi, c'est déjà ça. Il paraît qu'il y a trop d'étudiants en médecine, quoi, trop qui veulent faire cette première année. Mais moi, est-ce que je peux répondre sérieusement? Mais ça peut être quand même. Je crois vraiment très sincèrement que j'aurais aimé, moi, que quelqu'un me dise c'est possible en fait. Vous voulez faire? Moi, j'avais envie de faire du cinéma quand j'étais lycéen, mais c'était pas possible. Mon père était médecin, donc quand j'ai dit je veux faire du cinéma, il m'a dit tu vas d'abord faire des études. J'ai dit, je vais faire des études de cinéma. Il m'a dit non, tu vas faire d'abord des vraies études. Donc voilà. Donc j'aimerais peut-être pouvoir leur dire que c'est possible. On n'est pas obligé d'être dans un parcours d'excellence scolaire, quoi.
En fait, vous pouvez leur apprendre à dire non aux parents.
Exactement. Moi, j'ai 42 ans, je viens de commencer seulement.
Les parents qui nous écoutent vont pas laisser aller à l'école.
Ça vaut le coup que vous y alliez.
C'est à ça que ça sert.
Moi, que 5 demain, en fait.
C'est la 8e édition de cette action qui s'appelle Un artiste à l'école, qui s'achève demain avec vous, Thomas Lilti, qui a accueilli, par exemple, Alex Lutz est retourné à Strasbourg, dans son lycée. Vincent Dedienne est retourné à Chalon-sur-Saône. Cédric Lapiche à Paris. Lui, il était au lycée Rodin. C'est l'idée, toujours, les parents nous disent, déjà, il y a toujours le passe ton bac d'abord. Ça, c'est certain. Et quand on a des velléités artistiques, souvent les parents nous disent non, fais quelque chose d'abord d'un peu solide et après tu feras. C'est à ça que ça sert aussi de dire la voie artistique, c'est une voie qu'on peut envisager.
Oui, je pense, mais surtout c'est de dire qu'il y a pas de quoi. Moi, j'ai l'impression, c'est surtout qu'il y a pas de règles. En effet, on peut faire choisir une voie artistique tout en faisant des études d'autres choses à côté, j'en suis le bon exemple. En tout cas, l'un n'empêche pas l'autre, et pas de faire une croix sur une voie artistique sous prétexte qu'il faut... Et puis surtout, on ne sait pas, quoi. Moi, c'est ça que j'ai envie de leur dire.
Ce sera peut-être sur votre
message.
En
seconde, en première, on ne sait pas ce qu'on a envie de faire. Moi, j'en savais rien.
Qu'on peut faire les deux.
Deux, certainement pas. Mais même, je ne savais pas que je voulais devenir médecin. Je ne sais même pas si je l'ai jamais voulu, en fait. Mais ce qui n'est pas très grave.
Vous souvenez d'avoir été orienté à cet âge-là? Vous vous souvenez d'un rendez-vous avec le conseiller d'orientation?
Non, pas vraiment. J'ai souvenir d'être orienté par mes copains et de me dire, lui, s'inscrire en ça, c'est pas mal. Je vais faire avec lui. Parce que voilà.
Les métiers artistiques, c'est les métiers tellement compliqué pour arriver au top de ça et pour en vivre.
Oui, ça va, ça va.
Est-ce que... Non. Si tant est qu'on puisse considérer...
Aussi, pardon.
Oui, non, mais...
Quand Bernard Sisley, il avait des petites astuces.
Non, mais c'est-à-dire que quand on fait les études de médecine, si on les réussit, normalement, on va trouver un poste de médecin. Alors, peut-être pas assez bien payé, peut-être pas toujours. Artistiquement, on peut faire 15 ans d'études artistiques et puis il y a un mec dans la rue qui va être meilleur comédien que vous et qu'on va... C'est pas toujours vrai, mais ça arrive.
Où tu veux en venir?
Non, je veux en venir au fait que est-ce qu'aller dire à des jeunes... allez-y, prenez le risque artistique. Est-ce qu'il vaut pas mieux que parmi ceux-là, il y en ait un ou deux qui se disent, j'en ai rien à foutre, je vais y aller, je suis une tête brûlée, et qu'on me le dise oui ou qu'on me le dise non, je vais le faire. Plutôt que de leur dire c'est possible, parce que il y a beaucoup d'appelés et très peu d'élus.
Il a peur de la concurrence, hein, clairement, Alex Vizorek.
C'est ça, ouais, je vois ça. Mais moi, je vais, quoi, d'une part, moi, j'arrive pas avec la mission de donner des conseils et des consignes. Je vais juste leur parler de mon expérience et de leur dire que quand on a envie de faire les choses, on les fait de toute manière. Donc, de toute façon, ces gens qui ont très envie de devenir des artistes ou en tout cas d'essayer, c'est pas ni l'école, ni quelqu'un comme moi qui vont rencontrer pendant une heure ou deux heures ou trois heures qui vont leur changer leur façon de voir les choses, mais peut-être que Hippolyte n'est pas d'accord avec moi.
Non, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, dans votre histoire, il y a sûrement une métaphore de votre histoire qui est intéressante à faire passer. C'est-à-dire que vous avez été obligé de faire vos études de médecine à cause de vos parents, en grande partie, parce que votre père était médecin, c'est une sorte de déterminisme social et familial. Et ensuite, c'est peut-être ça qui vous a permis d'être un meilleur cinéaste que vous l'auriez été si vous aviez été conseillé de le faire. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que de toute façon, votre expérience vaut la peine d'être racontée, à cause de ça.
Bah oui, en tout cas, je pense que c'est indissociable, le cinéma, la façon dont je fais du cinéma est indissociable, en dehors même des sujets que je traite, de mon parcours et des études que j'ai faites. Donc je continuerai, quoi, je referai la même chose s'il fallait faire.
Et vous avez des souvenirs de témoignages de la société civile à l'école ? Quelqu'un qui serait venu vous raconter quelque chose à l'école,
à l'époque ? À part un policier qui nous a dit que c'était pas bien de fumer du cannabis et de brûler les feux orange, quoi, voilà.
Il est pas venu dans la classe d'Hippolyte, malheureusement.
Thomas Lilti avec nous, le réalisateur et le médecin sur France Inter. Vous écoutez
par Jupiter. C'était l'époque où on disait non.
Michael Kiwanuka sur France Inter, le choix musical de Djoubaka, bien sûr, qu'on retrouve régulièrement dans cette émission. Aujourd'hui, l'invité, c'est Thomas Lilti, le médecin, le réalisateur, le fameux réalisateur d'Hippocrate, le film, mais aussi la série, ou plus récemment de Première Année. Et il est venu nous parler de la 8e édition de Un artiste à l'école, car demain, il retourne dans son lycée. Ce sera à la Selle Saint-Cloud, au lycée Pierre Corneille, qui vous attend de pied ferme pour que vous racontiez votre parcours, votre métier, votre expérience, Thomas Lilti. Et pour l'entourer, Alex ?
Eh bien, pour l'entourer, pas mal de gens qui auraient mieux fait d'être mieux orientés à l'époque. Et je pense à Guillaume Meurice, à Thomas VDB et à Hippolyte Chirardot.
Aujourd'hui, on colle à ce gouvernement une image à droite.
Le journal de presque 17h17.
Oh bon.
On commence par les titres.
Des perquisitions ont eu lieu chez Gérard Collomb et à la mairie de Lyon dans le cadre d'une enquête sur les détournements de fonds publics présumés au bénéfice de son ex-compagne.
Eh oui, c'est le monde à l'envers. D'habitude, on a de la merde dans le colon. Et bien là, c'est le colon qui est dans la merde.
Les exportations d'armement français ont connu une hausse de 30% en 2018.
Eh oui, ça va ruisseler avec Macron. Un peu de sang, mais ça va ruisseler quand même.
Et les brèves?
Oui, là aussi, la France connaît une belle hausse des brèves et c'est beaucoup moins dangereux.
Ah, pas prouvé encore.
Et on commence par le président Emmanuel Macron.
Il a remis la Légion d'honneur à l'équipe de France de football, championne du monde, évoquant notamment avec une petite pointe de moquerie la demi-finale contre la Belgique.
Et je vais l'admettre, c'est mérité cette Légion d'honneur.
Quoi? Mais allez, mais vous m'étonnez là, c'est fair play là, vous avez plus le seum.
Non, je dis simplement qu'Umtiti, Griezmann, Giroud, ils ne dénotent pas dans le panthéon de ceux qui ont reçu la Légion d'honneur. Ouais. Je pense à Claude Guéant, à Jean Bédel Bokassa, à Bachar El-Assad, à Maurice Papon, à Benito Mussolini, à Ceausescu. C'est bien la preuve que l'équipe de France a fait à la Belgique les pires heures de son histoire.
Effectivement. Témoigne. Alors on écoute une partie du discours du président face aux Bleus.
Samuel Umtiti, vous avez été un roc défensif sur lesquels les attaquants les plus athlétiques se sont heurtés. Je pense que Lukaku s'en souvient.
Tu as bien te calmer. Tu as bien te calmer, mon pote. Non, Lukaku, il préfère se souvenir qu'il a sorti de PSG en Ligue des Champions cette année. Voilà.
Allez, passons à la politique. Ça, énervé, ça va vous calmer, la politique. La politique. Deux jours après la démission de Laurent Wauquiez, les barons LR ont signé ce qui s'appelle la paix du Novotel, car ils se sont réunis au Novotel. La paix censée mettre les querelles d'égo sous le tapis.
La paix du Novotel. Faut dire que s'ils continuent à dégringoler, la prochaine fois, ce sera la paix du Formule 1 qu'ils vont devoir signer.
À gauche, une députée de la France Insoumise se bâillonne en direct à la tribune pour dénoncer la réforme du règlement de l'Assemblée.
Et oui, malheureusement, ce n'était pas Jean-Luc Mélenchon qui s'est bâillonné. Pas de chance.
Dans l'affaire Carlos Ghosn, Renault a identifié 11 millions d'euros de dépenses injustifiées.
Carlos Ghosn, c'est tellement énorme ce qu'il a pu escroquer qu'à tous les coups, Balkany va mettre son poster dans la cellule.
Automobile oui. Toujours, Michelin a dévoilé un pneu increvable.
Oui, ils envisagent de le baptiser le pneu Michel Drucker.
Consommation, toujours. Édouard Philippe annonce l'interdiction de la destruction des invendus non alimentaires d'ici 2023.
Voilà, sans concerner les électroménagers, les produits d'hygiène ou de beauté, ouais. Les vêtements, ou encore les places pour les matchs de français en quart de finale à Roland-Garros.
Ah, bah, tout ça.
Ah, vengeance, on a un foot, on a un
foot. People.
Il y a beaucoup de bench là, encore en laisse.
Rihanna, on passe à Rihanna, parce qu'elle est devenue la chanteuse la plus riche du monde.
Oui, on apprend à l'instant que Laetitia Hallyday va faire son coming out.
Santé à présent. L'établissement français du sang a lancé un appel à la mobilisation générale car les réserves sont au plus bas depuis 2011.
Oui, d'ailleurs, on vous invite évidemment à faire un don de sang. Alors juste, je précise au cas où Nordal Hollandais nous écoute, il faut donner son sang à soi, bien évidemment. Très important.
Des brèves.
Marseille. Des policiers poursuivent des malfaiteurs qui ont tenté de prendre la fuite en trottinette. Il est assez bidon le pitch de Taxi 6.
La dernière?
Oui, un super combo. Ivre et sans permis, il vole une camionnette pour regagner sa prison. Je pense qu'une remise en question du système carcéral français est peut-être nécessaire.
17h25 à Paris et à Chenôve, où vous jouez vendredi,
j'y
Alex.
Serai,
c'est à côté de Dijon, c'est dans le fief de Guillaume Meurice.
Quelle belle ville!
Je joue en déplacement.
Vous écoutez France Inter, Thomas Lipti est en notre compagnie. Vous êtes cinéaste, vous êtes médecin aussi. Et on va aborder ce sujet sur les 80 services d'urgence qui sont en grève, certains depuis 2 mois. Et cette grève qui trouve enfin un large écho depuis qu'à la Riboisière, les médecins urgentistes se sont mis en arrêt maladie la nuit de lundi à mardi et ne sont pas venus travailler. Large écho aussi auprès de après la réaction de la ministre de la Santé Agnès Buzyn qui a fait une petite leçon aux grévistes. Reportage dans un service d'urgence, là où ça se passe toujours bien.
Ben, c'est-à-dire qu'ils ont décidé de créer un département clinique au sein même de l'hôpital afin de fournir de meilleures prestations quant aux soins médicaux.
C'est-à-dire?
Ben, c'est-à-dire que, par exemple, là, nous avons ici, nous sommes dotés d'un système de surveillance automatique qui permet aux malades de nous appeler. Là, par exemple, c'est la chambre 208. Ça veut dire que la chambre 208 a besoin urgent. On vient de le voir urgentement. Ah, ben là, ça clignote plus, donc ça voulait dire que l'urgence n'était pas très urgente.
Vous aurez reconnu les inconnus, et on ne se lasse pas de ce classique. Thomas Lilti, vous, est-ce que vous comprenez ce levier qui paraît le levier du désespoir de l'arrêt maladie comme dernière cartouche des urgentistes, tout ça en sachant qu'il y en a qui sont vraiment en arrêt maladie parce qu'ils sont au bout du rôle. Ouais. Et à la Riboisière, c'est un cas un peu particulier où le ras-le-bol est tel que c'est le dernier levier. Ça, vous ouais. pouvez comprendre, ça fait un peu polémique et
Agnès
Buzyn comprend pas.
Quoi, je comprends que ça fasse polémique parce qu'il faut, expliquer, mais une fois qu'on explique, je pense que tout le monde peut comprendre. Il n'y a plus de levier pour le personnel soignant, médecin compris, infirmier, agent hospitalier, aide-soignant, pour montrer, expliquer qu'on n'y arrive plus. Et comme la grève n'est pas possible, puisqu'on sait qu'ils font grève avec des brassards, la dernière solution, c'est l'arrêt maladie. En sachant que surtout, c'est aussi des arrêts maladie de solidarité pour le reste du personnel soignant qui est réellement en arrêt maladie. Et pour essayer de comprendre, je crois, quand même, la souffrance au travail, notamment dans ces métiers de santé, de soignants, et notamment dans les services d'urgence, il faut bien comprendre que ce n'est pas uniquement la surcharge de travail dont se plaignent les soignants. C'est le fait de mal faire son travail. Et quand on est un soignant, pas pouvoir bien faire son travail, c'est ce qu'il y a de plus terrible. C'est ça qui crée de la souffrance. C'est pour ça qu'on arrive à des extrémités, à des burn-out, à des suicides, à des arrêts maladie. Parce que les gens sont en souffrance de mal faire leur métier et de voir les patients souffrir eux également. Donc je pense que le signal d'alarme qui est tiré là, il faut l'entendre, il est terrible.
Vous avez une vision large des choses parce que vous avez été médecin de campagne, mais aussi médecin interne. Et en tant qu'interne, est-ce que vous avez pu observer des grèves, il y a eu ce genre de discussion. Forcément, on est confronté quand on passe quelques années en tant qu'interne à ces choses-là.
Oui. Alors moi, j'ai été interne il y a presque 15 ans, donc les conditions de travail étaient compliquées, mais là, ça s'est énormément dégradé. Et du fait que je travaille sur l'hôpital dans cette fiction qui est la série Hippocrate, je suis amené à rester en contact avec les hospitaliers. Et je me rends compte que la situation s'est dégradée, les conditions de travail, le fait aussi que là, on est pressurisé par l'administratif, par les problèmes de dépenses de santé, tout ça participe au fait, le manque de moyens, au fait que c'est devenu très dur. Et quand j'étais jeune interne, on avait déjà ces difficultés-là, mais je crois que ça n'a rien à voir avec ce que vivent actuellement les soignants.
Oui. Et la réaction d'Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, qui a culpabilisé, on peut dire, les grévistes, en disant que c'est un surcroît de travail pour les autres, pour les pompiers, pour ceux qui prennent en charge par ailleurs.
Je trouve ça inexcusable, quoi. Ouais. Cette absence de solidarité de la ministre de la Santé, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je pense que c'est une réaction à chaud, que c'est... Je peux pas. Franchement, je n'arrive pas à me l'expliquer.
Thomas Lilti, médecin et réalisateur notamment d'Hippocrate, le film et la série. D'Hippo, il en est question. Hippolyte Girardot.
Ah pardon. Oui. Bon,
c'est vous.
Oui, il est absorbé parce que disait Thomas Lilti.
Oui, les médecins.
Moi, je suis d'accord avec lui. C'est incroyable de penser qu'une ministre dise une chose pareille. Mmh. Tout de même, c'est vrai que. Bref, je voulais vous dire que ce réalisateur-là qui est devant vous, etc., tous les acteurs, toutes les actrices de France veulent tourner avec lui. Vous savez, c'est pas parce qu'il a la main, ce réalisateur, et réussit à chaque fois à taper au minimum le million d'entrées. Non, c'est pas ça la raison. C'est que ce cinéaste est médecin. Vous me direz alors, et alors? Mais est-ce que vous ignorez peut-être, c'est que 90% des comédiennes sont tous et toutes hypochondriaques. C'est presque un certificat de crédibilité d'être hypochondriaque dans ce job. Un comédien, il a deux postes budgétaires, le pressing et la pharmacie. Vous vous rappelez du film de Danny Boone, Superchondriaque? On a cru qu'il avait le génie d'inventer des trucs insensés, comme faire des prises de sang non-stop, passer ses nuits sur Doctissimo et se préparer comme s'il allait sur la Lune quand il prenait l'avion. Mais pas du tout, tout était vrai. Pire, non seulement on pouvait dire basé sur des faits réels, mais avec lui on aurait pu ajouter basé sur des faits vécus. Voilà, on croit que Danny Boone est hyperchondriaque. Pas du tout. Danny Boone est un comédien. Voilà. On peut imaginer un tournage de Thomas Lilti. Thomas, bon, alors on peut y aller. Ingrid, t'es prête?
Oui.
Bon, allez, action. Attends. Thomas, coupé. Qu'est-ce qu'il y a? Thomas, je sais pas, mais là, tu vois, j'ai un point. Je trouve c'est rouge, là. Tu veux pas regarder? On imagine alors Thomas lever les yeux au ciel, partagé entre son devoir de metteur en scène, qui n'a pas non plus des horaires illimités, et son serment d'Hippocrate. Ok, Ygritte, viens ici. Montre-moi. Équipe, vous bougez pas, hein? Vous bougez pas, j'en ai pour une minute. Viens ici. Viens me montrer ton truc. On lit souvent, donc voilà, basé sur des faits réels, dans les génériques. Mais moi, je trouve que c'est encore mieux quand c'est basé sur des faits réels et vécus. Regardez le nombre de films policiers réalisés par d'ex-policiers, des séries politiques écrites par des politiciens, des téléfilms de procès écrits par des avocats. Moi, personnellement, moi par exemple, j'aimerais beaucoup voir un film sur Roland Garros, mais écrit et réalisé par une balle de tennis. Voilà. Ou alors un film écrit et réalisé par un homard, victime de la surpêche et servi dans une résidence secondaire en Bretagne Sud. J'aimerais beaucoup. Oh, je te donnerais très très cher pour un film écrit et réalisé par le peigne dont Donald Trump se sert pour sa coiffure aérodynamique. Mais là où je donnerais tout, vraiment tout, 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 c'est pour un truc, c'est je crois que le sommet, ce serait un film écrit et réalisé par mon cerveau quand il écrit ce genre de chronique.
Hippolyte Girardot, merci Hippolyte. Certains acteurs ou actrices vous demandent une petite consultation ?
Mais tout le temps. Je me suis reconnu, c'est Hippolyte a résumé ma vie en quelques lignes.
C'était aussi du vécu, mais devinez, Hippolyte Girardot, merci. Vous écoutez France Inter, nous sommes avec Thomas Lilti jusqu'à 18h. Antoine Téboul à la technique et balance ton disque. Kepler, Kepler, c'est la playlist France Inter. Thomas Lilti est en notre compagnie. Il retourne demain sur les bancs de son ancien lycée à la Selle Saint-Cloud, le lycée Pierre Corneille, où à l'occasion de l'action Un artiste à l'école, il va rencontrer 150 lycéens, raconter son parcours. Comme d'autres artistes d'ailleurs, Alex Lutz à Strasbourg ou Vincent de Dienne à Chalon-sur-Saône récemment. C'est vous qui fermez le banc, donc demain, Un artiste à l'école. Un autre artiste... Guillaume Meurice.
Oui, c'est la journée sans plastique sur France Inter, une fois de temps en temps, c'est comme ça. Laurence Bloch, notre directrice, trébuche sur une VHS d'Ushuaïa Nature et elle devient écolo, comme ça pendant un quart d'heure, c'est incroyable. Et là, elle prend des décisions de dingue, comme supprimer de l'antenne les pubs pour Air France qui vantent les vols intérieurs. Non, c'est pas ça. Non, supprimer les touillettes en plastique par les touillettes en bois. Allez, prends bien ça dans la gueule, le réchauffement climatique. Alors évidemment, suite à la décision de Laurence, c'est tout le lobby du plastique hein, qui est en dépression nerveuse. Ils font la même tête que Nathalie Loiseau quand elle... ils font la même tête que Nathalie Loiseau tout court, d'ailleurs. Je le sais parce que j'ai rencontré Éric Quenet. C'est le patron de Plastique Europe, le grand lobby européen du plastique. Alors on va commencer par là. Est-ce que Éric se considère comme un lobbyiste ?
Aujourd'hui, je représente l'association des producteurs de polymères. Donc, je suis la voix des producteurs.
Est-ce qu'on peut considérer que c'est un lobby ?
Mais qui vous dit que les autres les ONG ne sont pas du lobby aussi?
Attendez, parce que vous n'avez pas répondu à la question.
Aujourd'hui, je suis le représentant de l'intérêt de la profession.
Mais est-ce qu'on peut dire que c'est un lobby?
Je vous laisse la responsabilité de votre affirmation.
Mais pour vous, oui ou non?
Je défends les intérêts de la profession.
Oui, alors règle numéro 1, quand on est lobbyiste, ne jamais dire qu'on est lobbyiste. Ça, c'est la base. C'est comme dans Fight Club. On apprend ça en première année en CAP lobbyiste. C'est à la Christophe Barbier School, je vous rappelle, dans l'amphi Bernard Guetta. C'est la règle de base. On n'avoue jamais. Poursuivons. Qu'est-ce qu'il pense de cette deuxième journée sans plastique à France Inter?
D'abord, je vous remercie parce que nous n'avions pas été invités à la première journée. Et c'est quand même bien. Et c'est quand même bien que nous portions nos messages.
Mais c'était pas ma question.
Mais c'est ma réponse.
Alors, calme-toi, Georges Marchais. Deuxième règle du lobbyiste, ne pas répondre aux questions, mais en répondant quand même aux questions, mais autre chose. Là, c'est vraiment de l'art contemporain. Alors, poursuivons quand même. Quand il voit tous ces plastiques dans l'océan, est-ce qu'il se sent un peu responsable?
Je me sens responsable en tant que citoyen.
Oui.
Pas en tant qu'industriel.
C'est là que vous différenciez, vous, votre part d'industriel et votre part de citoyen.
Aujourd'hui, ce que je me dis...
Là, est-ce que je parle aux citoyens ou à l'industriel?
Ou deux.
Ah, mince,
ouais. Deux. Bah oui,
ah, c'est compliqué.
Je combine très bien les deux.
Ouais, c'est le problème. Alors, quand il est sur la plage et qu'il voit des bouteilles en plastique dans la flotte, il doit se dire « Allez, regardez-moi ces saloperies qui traînent et oh, trop stylé la bouteille !» Excellent. Sa vie est une sorte d'ascenseur émotionnel en fait permanent. Parce que Eric, il est écolo. Quel est son principal défi?
Le défi auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est le défi clair de fin de vie des produits pour que ces produits-là ne se retrouvent plus en déchets sauvages.
Et pour résoudre ce défi, est-ce qu'on ne pourrait pas juste fabriquer moins de plastique?
Il a bugué,
j'ai failli perdre mon Rico. Alors attention, parce qu'un lobbyiste de cette qualité, on n'en trouve pas tous les jours. Alors posons la question autrement, est-ce qu'il ne faut pas par exemple remplacer les bouteilles d'eau en plastique par des carafes en verre réutilisables?
L'impact environnemental du verre, le fait de produire du verre, de transporter du verre, le verre c'est plus lourd que le plastique. Donc en fait aujourd'hui, en termes d'impact environnemental et empreinte environnementale, l'empreinte environnementale aujourd'hui n'est pas prouvée que les produits de substitution seront meilleurs. Donc moi,
ça veut dire que moi quand je bois un verre d'eau dans un vrai verre en verre, je pollue plus que si je prenais un gobelet en plastique?
Oui, mais après le problème, je ne vous demande pas de boire dans un verre en plastique. Ce que je vous demande aujourd'hui, et pour moi, c'est d'utiliser le bon emballage avant de le mettre dans le verre.
Ah, on est sur la base d'un champion du monde de Dinoui, non, putain. On a affaire au Raphaël Nadal du game. Il m'en renvoie toutes les questions en fond de cours comme ça. C'est beau à voir, on dirait du François de Rugy. Alors attendez, essayons de piger quelque chose.
Ne me dites pas que vous n'avez pas compris cela. Je m'attaque aujourd'hui à l'emballage, je m'attaque pas au contenant final du verre.
Ah, donc voilà. C'est quand même mieux de boire dans une carafe d'eau avec un verre en verre qu'avec une bouteille en plastique.
Alors après, c'est votre choix. C'est un changement d'habitude que vous faites à ce moment-là. Moi, ce que je demande aux gens, c'est que je vous laisse.
Est-ce que vous pouvez me répondre oui ou non?
Si vous utilisez aujourd'hui clairement de la bouteille, si vous utilisez à partir de votre robinet d'eau, vous utilisez ensuite un verre, une carafe en verre, et qu'ensuite vous utilisez un verre aussi longtemps que vous ne le cassez pas ni l'un ni l'autre, l'impact sur une durée longue, parce qu'on ne peut même pas l'utiliser deux, trois fois, ensuite, automatiquement, ça c'est clair qu'aujourd'hui, l'impact environnemental sera plus faible. Oui.
Yes! Il l'a dit! Ah là là, ça c'est de l'accouchement sans péridural, putain. Donc le bébé se porte bien, hein. Il s'appelle Oui, le verre qu'on réutilise pollue moins que le plastique jetable. Merci, passez-moi l'expression, mais la maman est une gourde, en verre, évidemment. Allez, concluons avec Eric et rendons hommage à Eric et à son parcours.
Je suis aujourd'hui représentant de Plastics Europe. Donc aujourd'hui, je représente l'intérêt des producteurs de polymères.
Oui, mais avant, vous étiez chez Total.
Là n'est pas le débat.
Donc on peut dire, pour vous, il y a quand même une passion de la pollution.
C'est une passion industrielle avant tout.
Et est-ce qu'après, vous allez aller chez Monsanto ou des choses comme ça?
Je refais référence à ce que je viens de vous dire.
Oui, on va pas se fâcher. Alors, je vais pas me fâcher avec mon nouvel ami Eric, que je vous conseille donc de suivre de près. D'ailleurs, cet été, il fera une tournée des plages. Enfin, si c'est pas lui, c'est ses produits qui feront le job. Et comme on dit en Méditerranée, nique ta mère, vive les polymères.
Merci Guillaume. Et on félicite ce monsieur qui a dû passer des heures et des heures de coaching pour en arriver là. Et c'est beau, c'est un bel effort.
Bravo,
il est 17h41 sur France Inter. À venir, Thomas VDB tremble, petit jingle d'actualisique. musique. En attendant, nous sommes en compagnie de Thomas Lilti, le médecin et le cinéaste, et on va aborder le versant plus réalisation de vos activités, Thomas. L'épilogue d'une longue série provoque, paraît-il, un sentiment de tristesse, voire de dépression chez certains spectateurs. Ainsi, le 73e et dernier épisode de Game of Thrones, par exemple, laisse les fans orphelins. Le magazine Society a choisi pour titre de son enquête « Déprime is coming ». Pourquoi tant de blues ?
La fin d'un spectacle, c'est comme la fin d'un amour. On a l'impression qu'on va perdre toutes ses petites habitudes. En plus, on retrouve plus facilement un amour qu'une bonne pièce. Avoue que 5 ans, ça fait tout de même un bail.
C'est 14-18 avec un peu de rabiot, le temps de l'entracte.
Dépissant-lit par la racine, le film de Georges Lautner. Thomas Lilti, est-ce que c'est exagéré, ce sentiment de tristesse, voire de dépression, à la fin d'une série ?
Mais moi, j'en sais rien, en fait. Moi, je ressens pas ça, mais je suis peut-être pas le plus série addict de tous, mais on le lit partout. Puis je vois, ouais, j'ai des amis, des copains qui souffrent. Là, la fin de Game of Thrones, c'était un truc de... Ouais, ils avaient l'impression de perdre quelqu'un, mais en même temps, ils avaient l'air de... Moi, j'ai pas regardé, quoi. J'ai pas trop suivi, mais ils, en même temps, ils étaient tous hyper déçus par la fin. Donc, je me suis dit, peut-être que cette déception, ça leur permettait de mieux digérer le deuil, je sais pas quoi.
Ouais,
c'était
ouais.
Comme ouais, une
fois. Ah oui, c'est vrai que
cette
déception, voire cette colère, ça existe depuis longtemps. L'article de Society dit qu'en 68, après 17 épisodes de suspense intégral, Patrick McGowan, le créateur et interprète de la fameuse série Le Prisonnier, s'était caché 2 semaines dans la campagne anglaise pour éviter l'ire de fans fâchés par le dénouement qu'il avait imaginé.
Voilà. Donc, j'ai eu ça avec Maggie. Ça m'a coupé ça.
Vous, en tant que spectateur, vous nous avez parlé maintenant en tant que réalisateur, quand la série, vous allez tourner le...
Là, on va faire une saison 2, j'espère que ça va pas s'arrêter tout de suite.
Comment on met le point final? Vous imaginez déjà que le jour où vous mettrez le point final à la série Hippocrate, il va falloir pas décevoir, que ça soit...
J'arrive pas, j'ai l'impression que... Peut-être parfois on ne sait pas qu'on met le point final aussi. Une série s'arrête alors qu'on pourrait imaginer qu'elle se poursuive. Mais ouais, je pense que c'est assez compliqué. Ça doit être quand on écrit, quand on réalise, ça doit être assez difficile de se dire bon bah là il faut terminer. Mm-hmm. Il faut terminer.
Ouais. Hippolyte.
C'est-à-dire que je pense que quand les gens ont l'ambition de faire beaucoup de saisons, je pense qu'ils ont les créateurs, les showrunners ont envie en fait de penser tout de suite à la fin, parce que c'est quelque chose vers lequel on va, on peut y aller à travers une saison, deux saisons, trois saisons, quatre saisons, mais je pense que c'est d'emblée dans la tête du créateur, parce que sinon c'est impossible de l'écrire d'une certaine façon, même si c'est inconscient, mais de toute façon elle est là.
Oui. Thomas Lilti, voulait réagir ?
Non, mais je pense que ce que je sais, c'est je sais ce qui, par exemple, très concrètement sur la série Hippocrate, je sais pas pour les personnages principaux ce qui terminera leur personnage. Je sais que ce sera terminé quand il va leur arriver ça.
Et ça vous fait plaisir que les gens puissent dire de vos séries, il faut que ça revienne, je me sens pas bien.
J'aimerais bien que ça arrive. Ouais. En tout cas, évidemment, ça fait plaisir. Le contraire, c'est le contraire qui doit être difficile à vivre.
Ouais. Vous avez plutôt la fin joyeuse pour les séries, c'est-à-dire que quand le générique arrive, dans quel état vous êtes et est-ce que vous arrivez à reprendre une activité normale immédiatement?
Ouais.
Il est médecin.
Moi, je me lasse assez vite en fait. Donc, dans les séries. Là, je parle pas quand je regarde un épisode, mais après une ou deux saisons, je reconnais que souvent je regarde la troisième ou la quatrième s'il y en a une, mais ça y est, je suis un peu lassé, ouais. Mmh. J'ai ma dose.
Et c'est pareil avec les livres, parce qu'on peut très bien terminer un bouquin un peu épais.
Un bouquin, c'est plus dur.
Ça y est, on le tient.
Je ralentis, mais comme tout le monde, non, un bouquin dans lequel je suis bien, je ralentis la lecture à fond. je me dis, bon, ce soir, je lis que 10 pages. J'essaye vraiment de retarder la fin, ouais.
Ce qu'on peut pas faire avec les séries, évidemment. Mmh. Bah oui. Guillaume.
Moi, je suis pas du tout série addict, je suis vraiment pas le bon client. Ouais. Mais par contre, sur Game of Thrones, comme ça suivait le livre au départ, je suis pas certain qu'ils aient pensé à la fin dès le début, peut-être d'où la déception, non?
Non, mais c'est même pas ça, c'est que la série elle-même dépasse les livres.
Oui, c'est pour ça.
Et ensuite, c'est vrai que c'est quand même l'histoire de beaucoup de familles, et donc les gens s'identifient très très fort aux familles dans les séries. C'est quelque chose qui leur rappelle leur propre histoire d'une manière ou d'une autre, ils s'identifient même à différentes familles.
Les familles qui ont des dragons, se sont identifiées.
Ouais, exactement. Tout le monde a un dragon, tout le monde connaît quelqu'un qui chevauche un dragon autour de soi, évidemment, qui se fait brûler la gueule. Je veux dire, c'est impossible autrement, quoi. Donc évidemment, c'est métaphorique, mais effectivement, ouais, ça existe. Et quand on a su que d'un seul coup, la Game of Thrones allait s'arrêter, c'est-à-dire que cette famille allait disparaître pour nous, je pense que le deuil était très violent, parce qu'en plus, il était annoncé. Il était annoncé. C'est pas comme si on disait au dernier moment, cette série ne marche plus, bon, on arrête, quoi. Mais les gens étaient tristes pour Friends quand ça s'est arrêté.
Ouais, c'est vrai, il y a même... Moi, c'est pareil à la fin du spectacle d'Alex. Je supporte pas
pour
que ça
en finir sur ce sujet, vous allez donc tourner la deuxième saison d'Hippocrate en décembre. Dans l'état actuel des choses, vous savez combien de temps ça peut durer? Vous avez une vision? Vous savez si ça peut faire beaucoup, beaucoup de saisons ou très peu? Ou comment on fait dans ces cas-là?
Non, vraiment, pour être très honnête, j'espère m'inscrire dans une série qui va avoir plusieurs saisons, 4, 5, mais c'est hyper présomptueux de ma part. Peut-être qu'il va y en avoir que 2, que la deuxième sera une catastrophe et que tout le monde me dira bon bah c'était sympa, maintenant on va faire autre chose, quoi.
Il y aura des dragons.
Mais j'y pense.
Dragons, j'ai
l'impression moi aussi. Hein.
Vu le succès de la première, il y a peu de choses. J'ai d'ailleurs reçu hier un prix de la meilleure série pour Hippocrate, décerné par l'Association française des critiques de séries. Donc l'avenir.
Des gens pointus.
L'avenir s'annonce quand même très très bien. Petit jingle, tremble, ça y est, c'est le moment du retour de Thomas VDB.
Eh ben oui, pas tout à fait de jingle, pas forcément, c'est pas, j'ai mieux ménagé mes effets. Vous savez que, vous savez que donc Thomas VDB, c'est moi naturellement, ouais. Et puis vous avez surtout remarqué que ce week-end, il a fait très chaud. Moi aussi, j'ai bien remarqué, je peux vous dire. Du coup, je me suis dit parfait pour mon intervention d'aujourd'hui, je vais parler de la canicule. Et bon, pas de bol, là aujourd'hui il pleut, donc ça marche pas très bien. Mais bon. Alors, en même temps, sous prétexte qu'il est tombé 3 gouttes depuis ce matin, vous n'allez pas commencer à faire vos Pascal Pro, être là, ah, mais il pleut, voilà. D'autant que les climatologues le disent tous, il va faire chaud sa mère cet été. Alors, ils ne le disent pas comme ça, mais bon, c'est vrai, ils disent, il va faire chaud sa maman. Alors, donc je voudrais quand même inciter, moi, les auditeurs à profiter du fait qu'il fait pas chaud aujourd'hui, parce qu'il va faire chaud, très très chaud bientôt. C'est un peu comme quand on a un mal aux dents et qu'on rêve de pas avoir mal aux dents et qu'on s'en veut de pas mieux profiter des jours où on n'a pas mal aux dents. Ben là, c'est pareil. Profitons du fait qu'on n'a pas mal à la peau, tellement il va faire chaud cet été, parce qu'il va faire bien chaud. Moi, c'est pareil, moi, en octobre ou en février, je peux vous dire, je kiffe la température. Je profite du fait que c'est pas la canicule. Voilà. Parce qu'en hiver, si t'as froid, ben, tu te couvres et puis t'as chaud. Mais torse nu en été, si tu crèves de chaud, ben, tu peux pas t'éplucher la peau. Voilà. Donc, là, t'es emprisonné dans la chaleur, c'est horrible. Voilà. Donc, je suis désolé, je fais un peu mon coming out de la chaleur. Ça, je le dis, moi, quand il fait chaud, j'aime pas bien ça. Et là, j'angoisse un peu à l'approche de l'été. Alors, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien ça, la chaleur. Moi, j'ai un pote, il me dit souvent, ah, moi, j'aime bien quand il fait chaud. Genre, en été, on est en terrasse, il me dit, on est pas bien, là. On est au plus mal, vraiment. Genre, en été, quand je suis à l'ombre, en train de mourir, tu vois, à l'ombre, en plein été, et que je dois passer au soleil, de l'ombre au soleil pour faire quelque chose, mais juste le moment où je passe de l'ombre au soleil, je sais pas, vous avez vu le film Robocop, à un moment, il y a un méchant qui se prend une cuve d'acide sur lui, et le mec, il marche, il est là, ben moi, c'est pareil, quand je passe de l'ombre au soleil, vraiment, je n'y arrive pas du tout. Alors, en même temps, je dois dire que je suis content de pas être sportif, parce que si j'étais sportif, je pense, j'en voudrais beaucoup à la personne qui a décidé que tous les événements sportifs doivent avoir lieu quand il fait le plus chaud de l'année, vraiment. Le Tour de France, les JO d'été. Quelle idée de faire des Jeux Olympiques en été. Franchement, les Coupes du Monde de foot, c'est pareil. Même si je me dis, c'est vrai que parmi toutes les choses qui annoncent l'arrivée de l'été, alors c'est vrai qu'il y a les journées qui rallongent, il y a les premières soirées en terrasse, mais il y a surtout aussi, quand tu fais la sieste, le fond sonore des échanges de Roland Garros. Et ça, j'ai remarqué que plus il fait chaud, plus les joueurs en bavent, et plus ils en bavent, et mieux je dors. Vraiment, je suis comme ça, je suis... Et mes ronflements se calent sur le rythme des échanges. Vraiment, je suis... Voilà, je me réveille parce que je fais souvent des bruits de chien quand je me réveille. Voilà, en tout cas, je sais pas comment ils font, moi, tous ces sportifs. Je veux dire, si j'étais cycliste pendant le Tour de France, je pense que le seul truc auquel je penserais en grimpant le Tourmalet, ce serait putain les gars, mais les intersaisons, ça vous dit rien, les intersaisons. On a pu faire ça quand il fait doux, parce que là, c'est pardon, mais c'est cagnard de nazi, là, cagnard de nazi. Parce que moi, quand il fait très chaud, je dis souvent qu'il fait une chaleur de nazi. Alors, je suis désolé si ça choque des gens, mais c'est vrai que moi, ça m'aide à supporter la chaleur de dire des trucs extrêmes. Et puis, c'est vrai que souvent, on me dit, mais il n'y a pas de rapport entre les nazis et la chaleur. Et je sais que c'est ce que me dirait Christine Angot. Elle me dit, ah, c'est pas comparable. Les nazis ont fait souffrir des gens. La chaleur, c'est pour faire pousser des plantes. Ah oui, je suis là, un truc comme ça. Ben, je suis pas d'accord. Pour moi, il y a plein de points communs entre la canicule et le régime nazi. Déjà, dans les deux cas, c'est un contexte qui ne te laisse aucun choix. Quand c'est un régime nazi, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et la canicule, c'est pareil. Ensuite, quand tu dois te déplacer,
chasser, quand il fait très chaud, bah, je trouve que tu fais un peu des bruits comme Hitler. C'est un peu, j'ai un peu, mais il y a ça. Surtout dans les deux cas, il y a des morts. Dans les deux cas, il y a des morts quand même. Voilà, donc pardon, là on rigole. Désolé, on rigole, mais pour moi c'est pas une chronique, en fait c'est un appel à l'aide à François de Rugy, parce que moi je m'en fous du pouvoir d'achat, moi ce qui m'intéresse c'est le pouvoir d'avoir froid, parce que je sais qu'en ce moment il parle de faire interdire les vols intérieurs en avion, mais c'est pas les vols intérieurs qu'il faut interdire, c'est les avions, hein, les voitures, les bateaux, les radiateurs, les barbecues, les allumettes, les briquets, tout ce qui chauffe, hein, tout ce qui chauffe on peut l'interdire. S'il veut pas avoir affaire au lobby de mes aisselles cet été, il va falloir qu'il se bouge, François de Rugy.
Thomas VDB dans une chronique intitulée Météo et nazisme, hein. On peut dire que Winter is comic. Merci Thomas VDB. Oh. Vous écoutez France Inter par Jupiter. Vous pouvez revoir bien sûr Thomas VDB en vidéo, bien sûr,
la fin de la chronique de Thomas VDB.
Sur notre page Facebook ou sur franceinter.fr, parce qu'il fait beaucoup de petits moulinets avec ses bras. Il y a beaucoup d'expressions, de gimmicks qu'il ne faut pas louper. Thomas Lilti en notre compagnie. Abordons ce dernier sujet qui fait guise de dessert. Très tôt, les enfants apprennent à épargner chaque sou d'argent de poche qui tombe dans le petit cochon. Mais comment on apprend aux enfants à donner ? Ah, eh oui, pourtant c'est facile. Allez, tutoriel, mode d'emploi.
Vise les petits en priorité. Quand je donne du pain aux petits, à chaque fois ils se font taper par les grands.
Ouais, mais tu sais, les grands, ils arriveront toujours à tout bouffer. Hein. Ça, tu peux leur faire confiance. C'est pour ça qu'il faut que tu vises les petits en priorité.
Mais pourquoi ? Même tu apprends à se débrouiller.
Bah, dis pas de bêtises. Si tu donnes pas aux petits, comment est-ce qu'ils vont réussir à se débrouiller et à devenir aussi forts que les grands ?
Ouais, mais ils se font taper, là, les petits. J'ai pas envie qu'ils se fassent taper à cause de moi.
Bon, écoute, tu fais ce que je te dis, tu donnes aux petits, puis c'est tout. C'est compris ? Mais dis donc, depuis quand c'est les petits qui disent aux grands qu'est-ce qu'il faut faire ?
Karine Viard dans Ma part du gâteau, le film de Cédric Clapiche. Voilà un article que nous avons trouvé sur Slate qui explique... que les enfants, on leur apprend très très tôt à épargner, à mettre dans le petit cochon. Je ne sais pas si vous faisiez ça quand vous étiez petit,
ouais,
Thomas Lilti.
Si. Ouais. Oui, oui, bien sûr.
Balance ton
quoi.
Petit cochon. C'est un peu islamophobe, mais on peut effectivement mettre dans le cochon.
Et l'article dit, mais comment est-ce qu'on apprend à donner aux enfants ? Alors évidemment, pour donner, il faut déjà avoir peut-être épargné un peu, c'est certain. Est-ce qu'il faut commencer par là ? Vous avez des enfants, Thomas Lilti.
Oui.
vous leur apprenez à épargner ? Ou ils sont trop petits encore.
Non, je leur donne de l'argent de poche, mais épargner, quoi. J'aime bien l'expression. Ouais.
Bah, donner de l'argent
pas...
de poche.
Non, mais c'est ça, mais c'est vrai que je me vois pas dire à mon fils de 12 ans, non, il faut que tu épargnes. Donc, non, mais moi, j'ai remarqué qu'ils ont tendance un peu à économiser leur argent de poche. Ils aiment bien le garder, puis ils aiment bien échanger les pièces contre des billets.
Ah, ils écoutent Dominique Seul le matin. Hein.
Ouais, c'est ça. Vraiment, quoi. Des billets de 10 euros contre des billets de 20, puis après de 50. Non, c'est ça. Ils aiment bien avoir. Mais, donner. Moi, j'ai lu l'article, là, de Slate. Donner, de leur apprendre à donner. Mm-hmm. Alors, je savais pas que ça se faisait. Donc, en gros, il faut dire, faut donner à une œuvre. On leur donne de l'argent de poche. Et leur dire l'argent de poche, faut le donner à une œuvre caritative. Mm-hmm. Non, là, j'avoue que moi, je maîtrise pas du tout ce truc-là.
Non, mais apprendre à donner, on le fait pas, mais voilà, ça doit être quelque chose d'instinctif. Ça vient. Est-ce que vous espérez que vos enfants vous seront généreux, j'imagine.
Apprendre à partager, en fait. Oui.
J'imagine que c'est un truc qui est par l'exemple. Donc, les enfants voient leurs parents donner, partager, j'imagine qu'ils vont suivre l'exemple. Mais de là, alors, les obliger à donner l'argent qu'on leur a.
En fait, vous n'éduquez pas vos enfants.
Donc, vous êtes plus dans la transmission par l'exemple que par le récit. Je vous rappelle que vous êtes dans une école demain. Donc, il va falloir bosser la transmission par le récit, quand même.
Mais là, c'est à peine par le récit, quoi, si on leur intime l'ordre de
non,
donner.
Non, mais de leur dire, tu pourrais donner. Qu'est-ce que tu penses de la notion de don?
Non, je crois beaucoup à la transmission par l'exemple. Quoi. En fait, c'est même pas que j'y crois, c'est que je pense qu'on peut pas lutter contre, quand même. Mm-hmm. Le récit, bien sûr, la parole, mais on peut pas lutter contre la transmission par l'exemple.
Et de la transmission, il va y être question dans le sketch, Alex Vizorek.
Mais oui, Thomas Lilti, vous savez qu'on fait un sketch en fin d'émission.
Mais non,
vous êtes venu pour ça, évidemment. Et on s'est dit, mais on va vous mettre dans la peau pour préparer justement cette session de demain.
C'est-à-dire, donc je rappelle, voilà.
Ouais. Voilà, vous allez raconter votre parcours à des collégiens. Et bien ici, c'est une école, on est plus vers la CM2. C'est Patrick et Isabelle Balkany qui reviennent dans leur classe pour expliquer aux enfants, Guillaume et moi-même, en quoi consiste leur métier. Vous êtes Patrick Balkany et Charline et Madame.
Bon, les enfants, on va vous expliquer comment s'est déroulée notre scolarité.
Oui, vous savez, j'ai été collégien ici, comme vous.
Oh, ça devait être il y a au moins 100 ans.
Oh, ne me vieillissez pas, on dirait Dupont-Moretti.
C'est qui, Dupont-Moretti ?
Alors, c'est le monsieur qui essaye de faire croire au juge que Patrick est innocent.
Donc j'étais au collège il y a à peine 58 ans.
Ah bah ça fait presque 100 ans quoi.
Ouais, je t'en collais une. Hein.
Patrick !
Mais quoi, il m'emmerde ?
Bah oui, mais c'est pas un journaliste, c'est un enfant.
C'est la même chose, il est de gauche.
Non, même pas, je suis droitier moi.
Bon, les enfants, qui veut faire de la politique ici ?
Bah non, pas trop, non.
Non, moi non plus, c'est tous des escrocs.
Non, c'est faux, nous sommes des politiques de conviction.
De quoi ?
Bah c'est rien, c'est ce qui nous fait vivre.
Voilà. Bon, vous voyez la grosse Mercedes dehors ? Bah je l'ai achetée grâce à mes convictions.
Ah bah ça gagne bien, maire.
Maire, non. Mais maire de la Pairie, oui.
Pourquoi ?
La méthode, c'est d'attribuer les marchés publics aux bonnes personnes.
Non, Patrick, non.
Mais si, il est intéressant, le gros monsieur.
Non, ce qu'il voulait dire, c'est qu'il est maire, car il aime ses concitoyens et les habitants de Levallois-Perret.
Ouais, j'aime surtout le pognon qu'il me rapporte.
Mais non, bon, les enfants, qui a des questions ?
C'est quoi votre matière préférée à l'école ?
Bon, moi, en tout cas, j'étais nul en maths.
Voilà, vous savez maintenant qu'on peut gérer une ville sans compter.
Bon, une autre question ?
Oui, moi je voulais savoir, vous faisiez des activités extrascolaires au collège ?
Ah oui, parce que moi je faisais beaucoup de sport.
Hein. Bah, du ballon prisonnier, non, j'imagine ?
Tiens, c'est un rigolo, lui. Moi j'étais trésorier du bureau des élèves.
Et voilà, et moi j'étais son assistante.
Et ça marchait bien ?
Tu parles, on s'est offert nos premières Rolex.
Oh, c'est quoi ? C'est quoi ?
C'est sa sonnerie de SMS.
Ah.
Ouais, faudrait peut-être que je la change.
Eh oui, bah tant que tu mets pas le pénitencier à la place, ça va. Hein.
C'est Dupont-Moretti, il veut encore que je passe au tribunal.
Bah dites donc, vous y allez souvent.
Ah, pas autant qu'à Marrakech. Tu viens pas, ma chérie ?
Bah non, je te rappelle que je suis en convalescence quand même. Merci Thomas Lilti, merci d'avoir passé cette heure avec nous. Bien, je rappelle que vous retournez sur les bancs de votre lycée, Pierre Corneille, demain à la Selle Saint-Cloud, et que vous allez raconter votre parcours dans le cadre de cette action qui s'appelle Un artiste à l'école et qui a lieu chaque année avec des tas d'artistes qui retournent sur les bancs de leur école.
C'est ça, ouais. C'est l'initiative de la SACD, je tenais à le dire.
Bien.
Ouais.
Voilà,
on aime beaucoup la SACD.
Bah, bien sûr, ça on aime beaucoup.
Elle nous aime beaucoup, la SACD.
La Société des auteurs, bien sûr. Et puis on suivra la deuxième saison d'Hippocrate que vous allez tourner cet hiver, en tout cas. Merci beaucoup Thomas Lilti, merci à Hippolyte Girardot, merci à Thomas VDB, Alex et Guillaume. Bien sûr, on va se retrouver demain avec le DJ Kiddy Smile. Et voici le mot de la fin qu'on va laisser à tous nos auditeurs qui sont vraiment très très tristes quand l'émission elle s'arrête.
Ça va plus du tout. J'ai plus envie de boire ni de manger. J'ai plus envie de me peigner. Oh, et puis merde, j'ai même plus envie de me laver.